On s'y attendait depuis que le Mali a mis à la porte Barkhane et ses pairs otaniens, qui leur a fermé son ciel et qu'il a rompu ses accords militaires qui n'étaient à vrai dire que sorte de fardeau pour aliter l'armée nationale et permettre aux terroristes made in Barkhane, dits djihadistes, de mieux tuer les Maliens et de mieux permettre aux multinationales de piéger leurs richesses. Que se passe-t-il au Niger? À peine quelques semaines après le redéploiement des forces de l'OTAN, dans ce pays, ou mieux dire, l'occupation territoriale du pays. Disons que l'affaire ukrainienne et la tournure que prennent le débâcle des troupes occidentales après la perte de Mariupol et la reddition des dizaines d'officiers, voire des généraux américains, français et otaniens, sur quoi la Russie, trop généreuse sans doute, a gardé un total silence, semble avoir décidé les Occidentaux, dont l'Empire est en miettes, à rallumer la mèche de la guerre au Sahel, car déjà cette guerre ukrainienne a permis une certaine relance de leur industrie d'armement. Des réseaux de trafic d'armes et de terroristes sont sur le point de s'organiser, alors qu'on parle en Europe de l'Est pour les envoyer, dixit, des sources bien informées vers le Sahel, et c'est là que les mouvements de troupes occidentales au Niger, dit réorganisation, prend son sens. Également, quand on lit une information comme la suivante, il faut s'en alarmer. Le Niger a reçu le week-end dernier des drones turcs. Six Bayraktar TB2 ont été livrés à l'aéroport de Niamey. Il s'agit d'une première partie d'un contrat d'armement passé en novembre qui prévoit aussi l'achat par le Niger d'avions légers et de véhicules blindés. Avec cet achat, les capacités aériennes du pays montent d'un cran. Et Niamey en profite pour diversifier ses partenaires dans le secteur de la défense. Les drones turcs ont une portée de 150 km, une autonomie de 20 heures et peuvent être armés. Un outil donc fort utile pour la lutte antiterroriste. Ces drones complètent les capacités de surveillance du Niger, explique une source sécuritaire française dans la région, mais il faut maintenant mettre en place tout le système qui permettra leur utilisation. Comprendre ici la formation de pilotes et d'agents d'analyse des images, la maintenance des appareils, la chaîne d'approvisionnement en pièces détachées, etc. D'après une source sécuritaire nigérienne, l'aménagement d'une base aérienne pour accueillir ces drones est déjà à l'étude. Avec cet achat, le Niger diversifie surtout ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme, explique Peter Weisman de l'Institut de Stockholm de recherche sur la paix. Le président Mohamed Bazoum s'appuie ainsi sur la solidarité entre États musulmans, alors qu'il est parfois critiqué pour son alliance sans faille avec la France. Les drones Bayraktar arrivent au Niger et au Sahel comme annonciateurs des conflits à l'Ukrainien, et ce, au prix du sang des Africains qui ont déjà payé lourd les avant-gardismes occidentaux depuis 2013, date de l'occupation du Mali. Mais le peuple nigérien ne tolérera aucune sorte d'ingérence et de tentative de déstabilisation. La souveraineté du continent africain doit arrêter d'être constamment bafouée. Les Africains ne comptent plus se laisser faire et montrent qu'ils sont prêts à défendre leur pays et leur continent face au néocolonialisme. Il était temps que le Gabon rompt avec la France, mais pourquoi? En effet, plus que tout autre pays africain, le Gabon a toutes les raisons du monde de vouloir s'éloigner de la France, en commençant par le coup d'État du décembre 2021, où des militaires de la garde républicaine ont pris d'assaut la radio nationale pour lire un communiqué, où ils ont annoncé vouloir mettre en place, de façon imminente, un Conseil national de la restauration. Et en passant par l'affaire de son ex-bras-droit, Brice Lacruche Alianga, qui a été condamné par le tribunal de Libreville à 5 ans de prison ferme pour délivrance indue de documents administratifs, et en ajoutant également son kidnapping en 2018, affaire dans laquelle la France a déjà attenté en 2018 quand il a fait kidnapper en plein vol vers l'Arabie Saoudite, puis l'a pris en outrage au terme d'une saga incroyable qui a duré plus d'un an mais qui a fini par échouer à Libongo à plus d'une raison de tourner le dos à la France. Tout ceci a clairement mené Bongo à choisir le Commonwealth, mais le fait qu'il interdise les manifs anti-français n'en reste pas contradictoire. Ce devrait être une manifestation pacifique pour protester contre la présence de l'armée française et plus globalement contre la politique de la France au Gabon, mais les autorités ont interdit cette marche qui devait se tenir à Libreville et qui avait été organisée par une partie de l'opposition et de la société civile. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur gabonais Lambert Noël Matta a tenu à rappeler que des accords de coopération et de défense liant Libreville et Paris, qui par ailleurs entretiennent d'excellents rapports diplomatiques selon ses propres termes. Les Gabonais, tout comme les autres Africains, en ont assez de l'occupation et du colonialisme français, et ils ont droit de l'exprimer, alors pourquoi le leur interdire? En effet, c'était il y a quelques mois que le Gabon, présidé par Ali Bongo, a annoncé une adhésion de son pays au Commonwealth. Il semblerait que cette décision n'a rien apporté au pays que des exactions de plus, des exactions qui font élever de plus en plus de voix contre les multinationales. Mais dans la foulée, il faut également dire que le Gabon était parmi les pays qui n'ont pas hésité à voter contre l'exclusion de la Russie au Conseil des droits de l'homme, ce qui n'a évidemment pas plu à la France. Un message clair de soutien à Moscou dans le conflit russo-ukrainien. D'un autre côté, une session de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et le Gabon s'est ouverte mardi à Yaoundé, capitale camerounaise, a-t-on constaté sur place. La commission mixte permanente de sécurité transfrontalière a été instituée en septembre 2012 avec pour but de permettre aux ressortissants des deux pays, surtout ceux vivant en zone frontalière, de pouvoir circuler sans avoir besoin d'un passeport, mais également de combattre le phénomène du braconnage. Le Gabon semble se rallier petit à petit aux coalitions interafricaines et de miser sur des coopérations entre pays voisins plutôt que de faire confiance aux instances occidentaux. Là où les décisions gabonaises agacent, c'est que les relations entre la France et le Gabon s'étaient réchauffées en 2021, malgré la procédure d'adhésion au Commonwealth de la partie d'Ali Bongo. Paris avait même été le principal soutien de Libreville pour l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. D'un autre côté, les échanges entre le Gabon et le reste du monde ont progressé de 3,6% à 4,494,2 milliards de francs CFA en lien avec les commandes de la Chine, l'Inde, la France et l'Italie. Si de manière globale, le flux des échanges a enregistré une baisse évaluée à 1 201,5 milliards de francs CFA, la Chine conserve sa position de partenaire privilégié du Gabon en matière d'importation et d'exportation. Une seule raison pourrait expliquer l'interdiction de manifestations anti-françaises. Bongo voit un dangereux shift power qui se fait entre les colonialistes français et les criminels de guerre anglo-saxons. Il veut faire un numéro d'équilibriste, mais visiblement un mauvais numéro. Il serait peut-être temps que le Gabon prenne exemple sur des pays comme le Mali où les décisions prises ont anéanti toute présence interventionniste, que ce soit du côté français, américain ou otanien. Les combats entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du M23 se sont poursuivis toute la journée ce mercredi 25 mai, des combats qui se sont déroulés à proximité de Goma, l'une des principales villes de l'est du Congo, dans une zone frontalière avec le Rwanda, pays qui a affirmé lundi que des tirs de roquettes congolaises avaient été tirés par l'armée congolaise sur le sol rwandais. Une situation explosive qui réveille d'anciens traumatismes. Que se passe-t-il en RDC? Réponse avec Luc Michel, géopoliticien à ce sujet.
C'est à la fois dû aux mauvaises politiques de Tshisekedi, mais aussi à l'action occidentale. Le Congo est secoué depuis 25 ans par une série d'attaques, de rébellions, d'insurrections. Il y a des groupes politico-militaires, il y a des groupes venus de l'étranger, et enfin il y a l'action des voisins de la RDC. En particulier, il y a l'action du Rwanda dans les régions voisines du Katanga, du Kivu et du Kasaï. Le Katanga était l'un des principaux protagonistes, tout d'abord de la guerre de 1996, qui a abouti à la destruction du Zaïre de Mobutu, et ensuite à ce qu'on a appelé la guerre mondiale du Congo, c'est-à-dire la guerre de 1998. Qui a vu tous les 10 voisins du Congo intervenir militairement sur son sol. Le Congo ne s'est jamais remis de cela, Cela a été encouragé par l'action de l'ONU et des Occidentaux, en particulier l'ONU, qui a introduit au Congo par des corridors dits humanitaires des forces militaires venues de l'Ouganda et du Rwanda et de la guerre civile du Sud-Soudan. Au début de la présidence Tshisekedi, il a fait des accords avec le Rwanda. Il s'est lui-même rendu à Kigali et sa épouse s'est rendue elle-même pour une mission diplomatique à Kigali. Et le Rwanda a continué son action militaire sur le territoire même de la RDC. Aujourd'hui, on accuse les Rwandais, notamment d'introduire des armes au Congo et en particulier ces armes qui sont tombées dans les mains de la rébellion politique du M23, qui est une rébellion d'officiers congolais soutenus par le Rwanda. Voilà donc ce qui se passe actuellement. Il y a en tout cas une reprise des combats. Et les accords de Tshisekedi avec le Rwanda ont été une erreur fondamentale. Il faut pas oublier que le Rwanda, c'est la porte d'entrée de l'Occident, des Anglo-Saxons, de la Grande-Bretagne et des Américains dans le Congo. Je ne pense pas. La présidence Tshisekedi est une mauvaise présidence qui a renvoyé le Congo, la RDC, dans les bras des puissances anglo-saxonnes, en particulier des Américains. La première visite en politique étrangère, à l'étranger, de Tshisekedi quand il avait été élu président, c'était précisément aux États-Unis. Il est allé littéralement prendre les ordres de ses maîtres américains, en particulier du think-tank Atlantic Council, qui pilote toute la politique américaine au Congo depuis les présidences de Bush 2, d'Obama et de Trump. Et bien entendu, ce n'est pas une politique qui est en faveur du Congo. Il n'y a pas de retour possible de l'alliance entre Tshisekedi et Kabila. Au contraire, Tshisekedi a fait tout pour nettoyer le Congo, l'armée, les services secrets, des éléments pro-Kabila. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs un rapprochement de Kabila avec l'opposition de Moïse Katumbi. Ils se sont rencontrés au Kasaï et au Kivu et ils effectuent actuellement un rapprochement qui est un rapprochement anti-Tshisekedi.
Le président iranien Ibrahim Raisi souligne la nécessité d'un bond dans le développement du commerce avec les pays africains. Le président iranien Ibrahim Raisi a souligné la nécessité d'un bond dans le développement du commerce avec les pays de la région, y compris l'Eurasie et l'Afrique. Le président iranien Ibrahim Raisi, lors de la réunion mardi du Conseil de coordination économique du cabinet, a souligné la nécessité d'utiliser les capacités élevées de la région, en particulier des pays voisins, pour développer le commerce et augmenter les exportations non pétrolières du pays. Raisi a décrit l'activation de la diplomatie économique et l'utilisation de la capacité élevée du corridor nord-sud comme une nécessité urgente et a souligné la nécessité d'un bond dans le développement du commerce avec les pays de la région, y compris l'Eurasie et l'Afrique.
Alors que la transformation s'accélère sur le continent africain, des millions de personnes n'ont toujours pas accès à des services télécoms de qualité. Les acteurs du secteur multiplient les investissements pour désenclaver ces populations. L'opérateur de télécommunications sénégalais Free a été choisi par le fournisseur de services télécoms par satellite Avanti Communications pour construire et héberger une passerelle pour son satellite de pointe Aïlas 4 en bande K au Sénégal. Un accord de partenariat de 5 ans, signé à cet effet, a été annoncé par les deux sociétés le lundi 23 mai. Free construira et exploitera la passerelle à partir de son centre de données de niveau 3 situé à Diamniadio, à l'extérieur de la capitale Dakar. La nouvelle passerelle permettra d'étendre la couverture de Haïlas 4 au Sénégal et aux pays voisins d'Afrique de l'Ouest, à savoir la Guinée, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Libéria, et de compléter la couverture de la Côte d'Ivoire par Avanti. Malgré l'intérêt économique que représente la valorisation des ressources pétrolières en Ouganda, plusieurs projets en cours de développement font l'objet de controverses en raison de leur potentiel impact négatif pour l'environnement. En Ouganda, le vice-président du Parlement, Thomas Tayemba, s'est exprimé lundi 23 mai sur les projets visant à exploiter les ressources pétrolières de la région du lac Albert et l'opposition à laquelle il se heurte. Le parlementaire a indiqué l'intention du pouvoir législatif d'aider l'exécutif à parvenir à une valorisation des ressources pétrolières nationales en dépit des manœuvres destinées à bloquer le processus. Le projet du lac Albert vise à développer les ressources pétrolières des champs ougandais de Kingfisher et Tielenga avant leur transport vers le port tanzanien de Tanga via un oléoduc de 1445 km. Selon un rapport publié en 2018, le secteur de l'exploitation artisanale et à peine échelle est responsable de la majeure partie de l'or extrait au Kenya. Si l'activité affecte la santé des mineurs et dégrade l'environnement, elle permet surtout de nourrir des milliers de familles. Au Kenya, le gouvernement a ordonné le week-end dernier l'arrêt de l'exploitation de l'or à Kom, dans le comté d'Isiolo. Il s'agit d'une mesure destinée à prévenir, voire lutter, contre la dégradation de l'environnement en raison de l'activité des mineurs. À en croire le commissaire du comté, Geoffrey Omoding, relayé par la presse locale, les chercheurs d'or utilisent des machines lourdes qui ne correspondent pas forcément à une exploitation de type artisanal. Cela fait peser sur la région des risques que l'Autorité nationale de gestion de l'environnement est désormais chargée d'évaluer dans le cadre d'un audit.